I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
C'est avec un immense plaisir que je vous parle d'une marque que j'affectionne tout particulièrement, Mama Hangs. Mama Hangs a les produits qu'il te faut en tant que maman allaitante. La brassière et le soutien-gorge d'allaitement absorbant. Ils sont conçus dans un tissu bien spécifique pour l'occasion, aka le micromodal, qui absorbe, sèche vite et te permettra d'éviter toute odeur, et ce, en restant au sec. Tout ça veut dire que si, comme moi, tu as des fuites de lait d'un côté quand le bébé tète de l'autre, adieu coussinets d'allaitement qui se font la malle et bonjour brassière ou soutien-gorge qui tiendra toute la journée. Et ce n'est pas fini. Le petit nouveau de la collection, c'est le body, qui a les mêmes talents absorbants en s'ouvrant à l'avant avec des aimants trop pratiques. Ici, on ne se passera plus de ces produits top quali, beaux et confortables. Alors merci Mama Hangs de soutenir le podcast depuis si longtemps. Et si tu veux en savoir plus, rendez-vous sur leur site mama-hangs.com et avec le code MILCHECKER, tu bénéficieras d'une jolie et rare remise de 15% sur ta commande. Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui est dédié à l'allaitement. Milkshaker car en 2020, j'ai décidé qu'ici, on allait agiter les idées reçues qui font la vie dure aux mamans allaitantes. Je commence par me présenter, je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation. J'accompagne entre autres quotidiennement les mères dans leur allaitement en libérant avec mes petites mains les tensions de leur bébé qui ne têteraient pas tout à fait correctement. Je suis également formatrice en ostéopathie pédiatrique et sur le sujet spécifique des troubles de la succion des nourrissons, et podcasteuse à mes heures pas si perdues. Enfin, je suis surtout la maman de deux enfants, l'un allaité une année et l'autre est en train de téter au moment où j'enregistre cette intro. Ici, tu écouteras des témoignages autour de l'allaitement, des vécus tous différents mais essentiels à recueillir pour apprendre de l'expérience des autres, pour se repérer, s'identifier parfois, déculpabiliser aussi mais surtout assurer la transmission nécessaire pour normaliser et même banaliser ce qui devrait l'être, nourrir son bébé, bambin, si on le souhaite, comme on le souhaite, et le temps que la dyade, comme on l'appelle, mère-enfant, le désire. Et ce n'est pas tout, car si l'allaitement était facile, ça se saurait. Le manque de transmission d'informations n'épargnant personne, il me semblait essentiel que ce podcast s'adresse aussi aux professionnels entourant les mères durant cette période. C'est l'intérêt des épisodes experts que vous pourrez écouter régulièrement, que vous soyez parent ou soignant, pour vous orienter face aux difficultés rencontrées. On y traite toutes sortes de problématiques liées de près ou de loin à l'allaitement, et plus encore. Un seul objectif ici, informer le plus largement possible. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Dès qu'un épisode vous a plu, aidez-moi en le faisant voyager pour qu'il arrive dans chaque oreille qui peut en bénéficier. Via le bouche à oreille, sur les réseaux, ou encore en laissant des étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute, vous n'imaginez pas à quel point c'est précieux, alors merci d'avance si vous prenez une minute pour faire vivre ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, dans Milkshaker, on va parler allergie et allaitement, mais aussi intolérance et allaitement. On va essayer déjà de faire la différence entre les deux. Et on va aussi se demander, comment je peux savoir si mon bébé est allergique ou intolérant à telle ou telle chose? Quels sont les symptômes qui peuvent m'alerter? Qu'est-ce que je peux faire? Une éviction, pas d'éviction, quand réintroduire l'aliment, qui consulter? Pour répondre à toutes ces questions et plus encore, j'ai demandé à Véronique Darmanjat, consultante en lactation IBCLC, de revenir au micro de Milkshaker. Vous l'avez déjà entendu parler allaitement et césarienne dans l'épisode 80, puis allaitement, alcool, tabac et drogue dans l'épisode 81. C'est parti pour rentrer dans le monde pas très simple des réactions allergiques et de comment cela peut venir perturber votre bébé, allaité ou non d'ailleurs. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Véronique, bienvenue dans Milkshaker.
Bonjour.
Véronique, est-ce que tu peux te représenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Tu es déjà intervenue dans Milkshaker, mais je veux bien que tu nous refasses une petite présentation si quelqu'un débarque aujourd'hui sur le podcast.
Eh bien, je suis consultante en lactation IBCLC. J'ai créé un centre allaitement à Paris où Je regroupe des professionnels qui travaillent autour de tous les problèmes autour de l'allaitement. Je fais de la formation pour les professionnels de santé. J'ai un cabinet conseil pour les entreprises où je propose de monter des programmes de soutien à l'allaitement maternel pour les salariés qui reviennent de congé maternité. J'écris un blog, j'écris des livres, je fais des conférences. Voilà.
Tu t'ennuies pas du tout?
Pas du tout.
Pas du tout. Mais tu as quand même pris le temps. Encore une fois aujourd'hui pour répondre aux questions de Milkshaker. Et pour ça, je te remercie parce qu'en plus, je te colle un thème qui n'est pas le plus facile. Aujourd'hui, on va parler allergie, intolérance et allaitement. La première question que j'ai envie de te poser, c'est voilà, de manière vraiment générale, est-ce qu'on peut manger de tout quand on allaite? Parce qu'il y a quand même plusieurs choses qui se disent sur le sujet. Est-ce que c'est vraiment des idées reçues de dire qu'on ne peut pas manger de choux parce que ça va donner des ballonnements au bébé, les boissons gazeuses? Moi, on m'avait dit que le fromage au lait cru, il fallait pas parce que je sais pas quoi, enfin que ça allait donner des coliques au bébé. On m'avait dit ça à l'époque. Alors, à la fois, il semblerait qu'on puisse manger de tout, et à la fois, je trouve qu'il y a quand même dans le quotidien une récurrence de témoignages de mamans qui disent que quand elles mangent ça ou ci ou ça, le bébé est dérangé. Qu'est-ce qu'il en est ?
On n'a pas forcément la réponse à tout, déjà.
Ah, mince.
A priori, on peut manger de tout quand on allaite. Le lait ne se fabrique pas à partir de ce qui est présent dans les intestins de la mère. Mm-hmm. Il se fabrique à partir des éléments présents dans le sang de la mère. Ce qui va passer clairement dans le lait, c'est le goût de ce que la mère mange. Et mm-hmm. tous les goûts ne passent pas de la même manière. Il y a des goûts qui passent plus que d'autres. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a plein d'idées reçues qui sont passées sur les aliments. Parce qu'en fait, ceux qui ont un goût très prononcé, qui passe de façon très forte dans le lait, ben on le sent à l'odeur hein, du lait, on le sent quand le bébé rote.
Ouais.
Si la maman mange des asperges, le bébé rote de l'asperge, hein, ça c'est sûr.
Ouais. Et ça fait un peu comme dans l'urine.
Oui, ouais. Tout à fait. Donc il y a des goûts qui passent de façon très marquée, mais ça ne gêne pas spécialement les bébés. Ça peut arriver qu'un bébé refuse de téter parce qu'il n'aime pas le goût. Je me souviens d'une petite fille qui avait refusé de téter parce que sa maman avait mangé de la choucroute et qu'elle ne connaissait pas le goût et ça ne lui plaisait pas du tout. Mais c'est très rare ce genre de cas.
D'accord.
Et le goût de ce que la maman mange, le bébé le connaît déjà à travers le liquide amniotique. Il a déjà baigné dedans in utero.
Ouais.
Il est habitué à la cuisine de la famille. Et c'est comme ça que l'enfant s'habitue à la cuisine de la famille et qu'il va manger tout après en grandissant. Donc les goûts, aucun problème, a priori.
Ouais, bah si un truc vraiment il aime pas, ben arrêtez de manger de la choucroute. Normalement c'est quand même assez rare. Même les asperges finalement c'est rare que les bébés refusent.
Ah mais les bébés ils refusent pas en général, c'est très rare qu'un bébé refuse. Au niveau de la composition du lait, la composition elle est très stable quoi que la mère mange. De manière générale, après on peut avoir des micro variations sur certaines choses. Le seul élément qui change vraiment en fonction de ce que la mère mange, c'est la qualité des acides gras, pas la quantité, hein, la qualité. Si une mère mange McDo tous les jours, dans son lait, elle a les acides gras de McDo. Ça, clairement, on sait que ça a une influence directe. Mais si une mère mange des acides gras variés, bah, dans son lait, il y aura des acides gras variés et c'est pas un problème. Si la mère est carencée dans un élément, son corps va d'abord mettre ce qu'il faut pour le bébé.
Prendre dans ses réserves.
Dans le lait. Voilà. Et si il en manque, eh ben, ce sera la mère qui va en pâtir. Mais pas le bébé a priori. Pour que le lait soit affecté par une carence maternelle, il faut que la carence soit tellement grave qu'il n'y a même plus assez pour mettre dans le lait. Et ça peut arriver, mais c'est très rare, surtout dans nos pays où globalement on mange. Donc si on part du principe que le lait se fabrique à partir des éléments qui sont dans le sang, quand vous mangez des boissons, quand vous buvez pardon des boissons gazeuses, vous n'avez pas du gaz dans le sang. Hein, donc vous n'allez pas faire du lait gazeux et ça va poser aucun problème.
Donc, vous pouvez boire de la badoie.
Voilà. Si vous mangez des aliments acides, ça ne va pas changer le taux d'acidité du lait. Le taux d'acidité du lait ne varie pas en fonction de l'alimentation de la mère. Donc, si la mère se gave de jus d'orange, peut-être qu'elle, elle aura quelques aigreurs d'estomac. Mais le bébé, non. A priori, ça change rien. Par contre, on sait qu'il y a des bébés qui réagissent à des traces infimes de protéines qui viennent de l'alimentation de la mère, qu'on va retrouver dans le lait maternel. Ces traces de protéines, elles sont là normalement pour que le bébé s'habitue aux protéines étrangères et que quand il va manger directement ces protéines, il soit déjà en contact et qu'il les connaisse déjà. C'est comme ça que ça se passe chez la plupart des bébés. Mais on a certains bébés qui vont réagir à ces traces de protéines, faire une allergie. Et c'est le seul cas où on enlèvera quelque chose de l'alimentation de la mère. Mais on le fait jamais en préventif. On le fait si on a une allergie avérée chez le bébé. Pour le thé et le café, on fait attention à cause de la caféine.
Oui.
Alors, on peut en boire un peu, hein, mais l'idée, c'est pas tout enlever, mais En général, on dit d'essayer de pas dépasser 2 tasses par jour en tout, ouais, pour que le bébé supporte bien. Si vous avez l'impression que votre bébé il supporte pas quelque chose que vous avez mangé, il faut refaire l'expérience au moins 3 fois avec le même aliment pour vérifier que c'est bien ça qui provoque un inconfort, ouais, chez votre bébé. Parce qu'en fait, on a parfois des coïncidences aussi. Et
vous passerez 3 nuits de merde pour le prix du...
C'est ça. Mais et si on a 3 réactions, on peut se poser déjà la question de est-ce que c'est une allergie. Et puis, il y a certainement aussi des choses qu'on ne s'explique pas vraiment, ouais, mais qui pour l'instant n'ont pas été prouvées par quelque étude que ce soit.
Donc, par exemple, la maman qui dit à chaque fois que je mange du chou, il est dérangé au niveau des intestins. Pour l'instant,
ça n'a pas de logique, en fait, parce que le chou, ce qui nous dérange au niveau intestinal, c'est soit parce que ça fermente, soit parce qu'à cause des fibres, parce que c'est, dans le chou, il y a beaucoup de fibres, mais dans le sang, ça ne va pas fermenter et on ne va pas retrouver de fibres. Ouais. Donc, ça n'a pas de logique que le bébé soit gêné au niveau intestinal si sa maman mange du chou. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, peut-être qu'il y a des mécanismes qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Mmh. Et peut-être que dans 10 ans, je vous dirai « Ah bah oui, en fait
!» Oui, oui.
Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire à une maman « Faut pas manger de chou quand on allait. » Par contre, son lait va avoir le goût de chou, oui.
Donc là, dans ces cas-là, tout ça, tu me dis, on parle d'allergie. Est-ce qu'on peut refaire la différence entre intolérance et allergie ?
Alors, l'allergie, c'est une réaction anormale, inadaptée, exagérée, excessive, du système immunitaire de l'organisme qui est consécutive à un contact avec une substance étrangère à l'organisme. L'organisme va considérer que c'est dangereux pour lui et il va réagir de manière excessive. On parle là de substances qui sont bien tolérées par la majorité des personnes.
Hein. Oui, bien sûr. Ouais.
On ne parle pas du poison. Hein.
Le poison n'est pas un allergène, c'est un poison.
Donc, une substance tout à fait inoffensive pour certains peut provoquer une réaction allergique chez une personne qui est sensible à cet aliment. Les intolérances alimentaires, à l'inverse, ne font pas intervenir le système immunitaire. Une intolérance alimentaire, c'est une réaction de type irritatif, le plus souvent au niveau de l'intestin, qui est due à des composés chimiques contenus dans certains aliments. On a certaines intolérances qui sont dues à l'absence d'enzymes digestives habituellement présentes dans l'intestin et qui font défaut chez certaines personnes, et donc ils n'arrivent pas à digérer correctement ces aliments. Et là, on va parler d'intolérance. Mais chez un bébé, on présente un bébé qui est exclusivement allaité, hein, j'entends. Mm-hmm. On ne peut pas parler d'intolérance parce que le lait maternel, lui, il ne va pas irriter les intestins et le bébé, il ne va rien lui manquer pour digérer le lait maternel. A priori, chez un bébé exclusivement allaité, on ne parle pas d'intolérance. Mais j'ai bien dit exclusivement allaité.
D'accord. Non, mais c'est important de revenir sur ça parce que je pense qu'à tout niveau, il y a plein de confusion entre allergie et intolérance. Moi, tu vois, dans mon esprit, allergie, c'était vraiment les réactions plus qu'excessives, enfin, le truc danger imminent. Mais en fait, dans la définition réelle, il y a en fait plein de stades d'allergie.
Non seulement il y a plein de stades, c'est deux mécanismes différents. Mais c'est surtout qu'on a plusieurs types d'allergies. On a des allergies IgE médiées qui vont avoir effectivement des réactions quasi immédiates, en tout cas très rapides et qui peuvent être
genre
très
EDM.
Impressionnantes. Ouais. Voilà. Et les allergies non IgE médiées, qui, elles, vont avoir souvent des réactions un peu plus retardées, qui peuvent prendre 2-3 jours chez certaines personnes, et où on va plutôt avoir des symptômes soit digestifs, clairement, soit des symptômes d'agitation, de choses comme ça. Et ces deux types d'allergies sont des allergies, donc c'est une réaction du système immunitaire.
Ouais, c'est vraiment la notion de soit le système immunitaire réagit, soit juste il y a une irritation qui se crée. Si c'est une irritation, on parle d'intolérance.
Oui, voilà, si c'est une irritation, on va parler d'intolérance. Si c'est le système immunitaire, c'est une allergie.
Ok, très bien, bah, c'est important de revenir là-dessus parce que je pense qu'il y a souvent confusion et à différents niveaux, moi la première. Alors, c'est quoi les signes et symptômes chez un bébé qui va déclencher une réaction allergique ou d'intolérance? Alors, du coup, pas d'intolérance, on a dit, chez le bébé exclusivement allaité. Mais par contre, il peut y avoir des intolérances chez le bébé, soit en mixte, soit biberonné, soit diversifié.
Alors, les signes d'allergie, ils sont extrêmement variés et nombreux. C'est ça qui rend l'exercice difficile. Ce qu'on va avoir le plus souvent chez les bébés, c'est du reflux gastro-œsophagien, qui est un symptôme à part entière d'allergie. Dans 50% des cas de reflux, on sait que c'est un reflux qui est dû à une allergie.
50% quand même.
Et que quand on supprime l'allergène, le reflux disparaît totalement. Et l'autre 50%, c'est de la mécanique. Donc, le reflux chez les bébés, ça peut être un signe d'allergie. Chez les bébés, on va avoir de l'eczéma, des réactions
atopiques.
On peut avoir des maux de ventre. On peut avoir des problèmes de prise de poids. On a certains bébés qui mangent correctement, mais à cause de leur réaction allergique, ils ne prennent pas de poids.
Ils assimilent pas bien, voilà. En fait, c'est ça.
On ne sait pas exactement pourquoi ils prennent pas de poids. Mais en tout cas, on peut avoir un problème de prise de poids. On peut avoir des glaires dans les selles. Attention, ça peut être aussi un bébé qui a un rhume. Hein.
Ouais, qui a un rhume qui fait les dents. Qui...
Voilà. Quand un bébé sécrète des glaires, on va les retrouver dans ses selles. Mais quand le bébé n'a pas de rhume et qu'on a des glaires dans les selles, il faut se poser la question de l'allergie parce que c'est un signe d'allergie. Le sang dans les selles peut être un signe d'allergie.
Selles vertes ?
Non, selles vertes, non. Les selles vertes, c'est juste quand le transit a été accéléré.
Quand le transit a été accéléré.
Les selles vertes, dans l'absolu, on s'en fiche en fait. Mmh. On ne s'en occupe pas.
Ok.
C'est pas un problème en soi, des selles vertes. Par contre, des glaires dans les selles, oui. Du sang dans les selles, oui. Et ça, je dirais que c'est les réactions les plus communes chez les bébés. Après, on peut en avoir plein d'autres. Hein. On peut avoir des manifestations respiratoires avec le nez qui coule, le nez bouché, les yeux larmoyants, des bronchites à répétition, ouais. Des otites à répétition. ORL. Toute la partie ORL peut être touchée. On peut avoir des réactions oculaires avec des conjonctivites, avec des kératites. On peut avoir des manifestations cutanées avec des éruptions faciales rouges qui ressemblent comme à du papier de verre. C'est pas de l'eczéma, mais c'est une réaction de type allergique quand même. On peut avoir de la peau sèche et écailleuse qui démange. On peut avoir des gonflements des mains et des pieds, par exemple, des paupières. On peut avoir des gonflements des lèvres, on peut avoir des réactions digestives du type gaz, ballonnement. Mais avec un bébé, il faut faire très attention parce que la plupart des bébés qui ont des gaz et des ballonnements, c'est juste parce qu'ils avalent de l'air en tétant.
C'est qu'ils avalent de l'air, ouais.
Et que ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus commun que, ouais, l'allergie.
Bien sûr. Oui, maux de ventre n'est pas égal à allergie. D'abord,
non,
on regarde en effet s'ils ne bouffent pas de l'air parce que c'est quand même le plus fréquent.
Et puis, dans les réactions comportementales, on peut avoir des bébés qui sont irritables, qui ne dorment pas la nuit, qui crient beaucoup. Mais c'est pas spécifique comme symptôme.
Non.
Donc en fait, on est toujours obligé de faire un tableau complet parce que sinon on a des pièces de puzzle qui ne veulent absolument rien dire. Et dans le pire des cas, eh ben on peut avoir des crises d'allergie avec un choc anaphylactique, un œdème de Quinck. Tout ça, c'est extrêmement grave et sévère parce que l'enfant risque de décéder. Mmh. On a tous les degrés dans l'allergie.
Oui. Voilà, faut faire comme un demi-cercle là avec l'aiguille qui se déplace de 0% à 100% d'allergie. Et finalement, si vous êtes à 1%, bah, peut-être qu'il n'y aura aucun signe. Mais pourtant, il y a quand même un petit truc quelque part. Et si vous êtes à 100%, vous êtes dans œdème de Quinck et tout ça. Quoi.
Voilà. Mmh. Et puis, vous avez des enfants qui sont allergiques à une chose et des enfants qui sont polyallergiques. Moi, j'ai connu un enfant. Résultat, après les tests, etc., il ne pouvait manger que 5 aliments en tout. Donc, on comptait même plus les allergènes, on comptait les aliments qu'il pouvait manger.
Aïe, aïe, aïe.
Donc, vous avez vraiment tous les degrés et plein de tableaux variés.
Je reviens sur la partie ORL dont tu parlais. Partie du constat qu'il y a 50% des reflux qui sont liés à des allergies alimentaires, est-ce que c'est pas le reflux, bon, tu vas me dire qu'on ne sait pas, il y a peut-être pas d'études spécifiques là-dessus, mais est-ce que c'est pas le reflux qui crée le problème ORL, tu sais, parce qu'on sait que quand les bébés ont un reflux chronique, la sphère ORL est beaucoup plus sensible.
Alors ça peut, mais le problème ORL, on peut l'avoir des deux côtés. On peut avoir la sphère ORL, le reflux qui effectivement va irriter la gorge et puis le nez et puis créer des otites aussi chez certains bébés quand ça remonte trop. Mm-hmm. Mais on peut aussi avoir des signes d'allergie qui sont typiquement ORL sans avoir de reflux.
Donc les signes, tout ça chez le bébé, là on a tout vu. Chez la maman, est-ce que ça peut donner des choses?
La maman, elle peut être allergique, mais c'est les mêmes signes. Et puis en fait, en termes d'allaitement, ça n'a aucune influence sur le bébé.
Est-ce qu'on peut penser que un bébé allergique doit nous renvoyer à penser que la maman a aussi une sensibilité?
Pas spécialement. Pas spécialement. En fait, on a plus de risques d'avoir un enfant allergique quand on est soi-même allergique. Mais ce n'est pas parce qu'on voit un enfant allergique qu'il faut chercher la même allergie chez le parent. Souvent, les bébés, ils commencent avec des allergies alimentaires. Et puis, quand on grandit, les allergies alimentaires se calment chez plein de gens. Il y a plein de gens qui peuvent remanger certains aliments. Et à l'âge adulte, on va se mettre à développer des allergies respiratoires, des allergies au pollen, des allergies aux acariens, des choses comme ça. C'est très rare qu'on ait des bébés qui aient des allergies respiratoires. On en a quelques-uns, mais c'est vraiment rare. Alors que avoir des adultes qui ont des vraies allergies alimentaires encore très fortes, ben on n'en a plus beaucoup. Donc les allergies, ça varie au cours de la vie. Et surtout, ce qu'on sait, c'est que même s'il y a un terrain allergique, les enfants ne sont pas forcément allergiques aux mêmes choses que leurs parents. Et puis le parent, il va peut-être, quand on va le voir, avoir des allergies au pollen. Et chez l'enfant, on va peut-être avoir une allergie aux protéines de lait de vache. Mais le parent, il n'a plus l'âge d'avoir une allergie aux protéines de lait de vache.
Alors, comment savoir à quel aliment mon bébé... si voilà, s'il y a des symptômes qui se recoupent et qu'on se dit qu'il y a une potentialité d'allergie derrière, comment je viens tester tout ça? Est-ce qu'il faut que j'aille chez un médecin spécialisé là-dedans, que je fasse une prise de sang particulière à mon bébé? Est-ce que je fais des tests à l'aveugle, à la maison, en enlevant un jour ci, un jour ça, en remettant? Enfin, c'est hyper compliqué, parce qu'il y en a qui réagissent 3 jours après, il y en a qui réagissent le jour même.
C'est très compliqué, et puis en plus, dans l'équation, il faut rajouter le délai pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste. Et qu'avoir un rendez-vous chez un allergologue, on l'a rarement en 3 jours. Donc...
On parlait déjà de ça ce matin, parce que j'ai interviewé une orthophoniste spécialisée dans la scission qui me disait « J'ai pas de solution pour avoir un rendez-vous rapidement, donc rebelote cet après-midi.
» Donc, en fait, il faut savoir que chez les enfants, on a des listes d'allergènes plus courants que d'autres. Et le premier allergène chez les enfants aujourd'hui, parce que ce n'était pas le cas il y a 25 ans, mais aujourd'hui, c'est les protéines de lait de vache.
Okay.
Il y a 25 ans, c'était l'arachide. Mais aujourd'hui, c'est les protéines de lait de vache.
On sait ce qui explique ça, non ?
On ne sait pas exactement. On pense que c'est la consommation générale. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, on mangeait beaucoup de cacahuètes dès que vous aviez un apéritif ou que vous alliez dans un bar ou qu'on vous servait des cacahuètes tout le temps. Et on avait aussi des confiseries beaucoup à base de cacahuètes. Comme il y a eu énormément d'allergies, on a diminué la consommation des cacahuètes.
Et après, on a dit les produits laitiers
par contre,
sont nos amis pour la vie.
Voilà. C'est ça. Et la consommation des produits laitiers, elle a explosé. Quand vous regardez les linéaires dans les magasins, c'est absolument énorme.
Ouais.
Donc, on pense qu'il y a un lien, d'autant plus que dans les pays où on ne mange pas de produits laitiers, on n'a pas d'allergie aux produits laitiers.
Ouais, c'est comme les Italiens qui sont tous cœliaques parce qu'en fait, ils mangent trop de gluten.
C'est possible, mais la différence, c'est que la maladie cœliaque, ce n'est pas une allergie.
Oui, c'est une maladie.
Ça n'est pas le système immunitaire. On l'a aujourd'hui. Première allergie possible, les protéines de lait de vache, parce que c'est la plus fréquente. Et ce qu'on peut faire avec un bébé, eh ben, c'est faire une éviction totale chez la mère et chez le bébé. Pourquoi je dis aussi chez le bébé? Parce que si jamais on lui donne des compléments de préparation pour nourrissons, on n'oublie pas que les préparations pour nourrissons, elles sont majoritairement conçues à partir de lait de vache, et que donc si on donne des biberons de préparation pour nourrissons, on met le bébé en contact directement, et ça sert à rien que la mère fasse une éviction si on en donne des biberons de préparation pour nourrissons au bébé.
Et pareil, s'il commence à être diversifié, tout ce qui est yaourt, etc.
Voilà. Donc, si on fait une éviction, on fait une éviction complète chez la maman et chez le bébé. Le lait, les laitages, les fromages, le beurre, la crème fraîche et tout ce qui est caché dans tous les produits qu'on achète. Et il y en a beaucoup. Donc, il faut se procurer la liste de toutes les appellations possibles. Parce que ça peut être protéines du lactosérum, ça peut être plein d'appellations pour lesquelles on ne sait pas forcément que ça contient des protéines de lait de vache.
Où est-ce qu'on se procure
ça? En bossant sur Internet, on trouve sans problème. Et puis après, on vérifie toutes les étiquettes de tout ce qu'on mange. Donc, le plus simple, c'est de ne pas acheter des produits préparés ou industriels et puis d'acheter que des produits de base. Donc, on enlève absolument tout chez la mère et chez l'enfant pendant au moins 3 semaines. Et on voit ce que ça donne. Pourquoi 3 semaines? Alors, très vite, il n'y aura plus de protéines de lait de vache dans le lait maternel. Je crois que c'est en 2-3 jours qu'il n'y a plus rien. Par contre, l'enfant, lui, il peut continuer à avoir des réactions jusqu'à ce que son propre organisme ait tout éliminé. Et c'est ça qui va prendre du temps chez certains enfants. Quand on fait une éviction complète, il y a des bébés, en 3 jours, on voit que ça a tout changé. Ils vont beaucoup mieux, l'eczéma se calme, ou le reflux se calme. Enfin, on voit une énorme différence.
Normalement, on voit déjà une différence avant les 3 semaines.
Je dirais pas normalement, je dirais chez certains enfants, on voit la différence avant. Chez d'autres, il va falloir attendre les 3 semaines pour voir la différence. Attention, quand on fait une éviction comme ça, il faut jamais s'arrêter là. C'est-à-dire qu'il faut faire un test de réintroduction. Parce que sinon, on ne saura jamais si c'est juste parce que l'enfant, lui, de lui-même, il allait mieux, ou si c'est l'éviction. Et dans ce cas-là, on laisse un enfant sous éviction, alors que pour un peu, il n'y a pas besoin, et ça devient une vraie galère avec la crèche, avec tout ça. Donc, on fait un test de réintroduction, et puis on y va carrément. En ce moment, les mamans, je leur dis, vous faites une raclette, quoi. En été, on fait plutôt des tomates mozza ou un plateau de fromage, mais... mais on réintroduit d'un coup une énorme quantité, mais...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé Carry and Pack. Je suis une fervente adepte des écharpes de portage, mais l'ostéopathe que je suis sait que leur mise en place peut parfois vous freiner, vous ou votre moitié. Mais aussi ô combien le portage peut être indispensable pour certains bébés. Chez Mama Hanks, pas de compromis. Le porte-bébé Carry and Pack est en fait un vêtement confortable que tu enfiles comme un t-shirt et dans lequel ton bébé va pouvoir venir se lever, tout en respectant sa position physiologique, l'enroulement de sa colonne, l'écartement de ses hanches, ainsi que le dégagement de ses voies respiratoires, grâce à des systèmes de serrage des pans de tissu. Ce tissu, justement, il est tout doux. En coton bio, certifié GOTS, le tout est dessiné à Biarritz et fabriqué au Portugal. Tu pourras l'utiliser de la naissance jusqu'aux 10 kg de ton bébé, de quoi t'assurer un certain nombre de câlins collés serrés. Ici, on n'a utilisé que ça pour bébé numéro 2. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hanks.com et tout pareil, avec le code MILCHECKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%.
Et comme ça, c'est clair. Parce qu'en fait, si vous réintroduisez un tout petit truc, vous savez jamais si c'est ça, si c'est pas ça, si la réaction n'est pas très claire. Alors que si vous faites une raclette et que le lendemain, le bébé, il se couvre d'eczéma, bah au moins, c'est une évidence, vous le savez. Et dans ce cas-là, on enlève tout et on prend un rendez-vous avec un allergologue. Si ça fait rien, il peut être allergique à autre chose. Et là, la liste est longue. Parce qu'il peut être allergique au blé, aux œufs, à n'importe quelle protéine, en fait. Il peut être allergique. Et ça, c'est toujours un peu galère. Parce que, bah, on va essayer les trucs les uns après les autres.
Ouais, 3 semaines, c'est long.
Et puis, il y a certains enfants, ils en ont plusieurs, des allergies. Donc, on trouve qu'il y a du mieux, mais c'est pas suffisant. Donc, il faut enlever un autre, etc. Normalement, le médecin, en général, va faire un test sanguin. Mais le test sanguin, il ne va tester que les allergies IgE médiées. Parce qu'on va tester les IgE au niveau sanguin. Quand il y a une allergie non IgE médiée, on ne la trouvera pas au test sanguin. Donc le test sanguin ne nous donne qu'un résultat partiel. Et puis ensuite, justement, il faut obtenir un rendez-vous chez un allergologue.
Ouais.
Donc ça, bon courage.
Et pour les pas IgE médiées, du coup, il y a d'autres tests ?
Non, c'est les évictions.
Oh là là,
c'est les
la
tests
galère.
Par les évictions. Oui, alors les allergies, c'est la galère. Les allergies, c'est une vraie grosse galère. Parce que ça prend beaucoup de temps pour avoir un résultat satisfaisant, parce qu'il faut le temps d'avoir trouvé tous les allergènes, que pendant ce temps-là, l'enfant, il est pas bien, que les parents, ils galèrent. Ouais. Donc oui, et puis ça peut durer longtemps, les allergies.
Bah oui, parce que c'est pas comme s'il fallait arrêter une journée pour voir ce que ça donne. Enfin,
voilà. Donc, après, l'allergologue, lui, il va faire des tests, il peut faire des tests sur la peau, hein, des patch tests. Ils sont pas toujours hyper fiables, ça dépend. Alors, pendant une période, on a dit, il faut pas les faire avant un an parce que c'est pas fiable. Après, il y a des gens qui ont dit, mais si, même avant un an, c'est fiable. Il y a une époque, on avait ce qu'on appelait le dialer test, qui était un patch test pour les protéines de lait de vache. Le problème, c'est qu'il avait énormément de faux négatifs. Donc, on avait 40% de faux négatifs. Donc, quand il était positif, on savait que c'était vraiment une allergie aux protéines de lait de vache, mais quand il était négatif, on savait jamais.
Oui, le faux résultat, négatif, ça veut dire que le test revient
négatif.
Genre, il n'y a rien.
Mais en fait,
il y a quelque chose.
Voilà. Et donc, ils l'ont enlevé. On trouve plus le dialer test. Mais donc, les allergologues font d'autres tests directement sur la peau, soit avec le principe actif d'un aliment, soit directement avec l'aliment en direct, avec une petite incision et puis un bout d'avocat, un bout de... Ah oui, ça fait plateau repas sur la peau de votre bébé, c'est sympa comme tout. Dans tout ça, finalement, le plus fiable, souvent, c'est les tests d'éviction, mais c'est le plus pénible aussi.
Test diagnostique, ok, très bien, on a compris. Donc, il y a les évictions, il y a les tests sanguins, mais les tests sanguins ne couvrent pas la totalité des allergies. En gros, si on sent qu'il y a un truc comme ça, il faut quand même se rencarder rapidement pour trouver un rendez-vous, quitte à ce que ça prenne du temps, et puis de tester des évictions entre-temps. Quoi.
C'est ça.
Mon bébé est allergique aux protéines de lait de vache et aux œufs. Le problème, c'est que pendant que je teste les protéines de lait de vache, je continue de manger des œufs.
Oui, mais on va avoir un mieux.
Mais on aura un mieux quand même.
On aura un mieux, mais ce ne sera pas parfait.
Combien de temps il faut éviter l'aliment après ?
Alors, ça dépend
une fois
des
qu'on
aliments.
A trouvé.
Une fois qu'on est sûr,
si on a trouvé, si vraiment on en a passé.
Et encore à chaque fois, hein, quand on fait un test d'éviction, on fait un test de réintroduction. Hein.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que pour être sûr, il faut avoir éviction-réintroduction.
D'accord. Donc on a réintroduit, on est sûr que ce truc-là,
alors,
ça ne passe pas.
La durée est très variable d'un aliment à l'autre. Les allergies qui passent le plus vite aujourd'hui, c'est les allergies aux protéines de lait de vache. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Ouais. C'est les plus fréquentes.
À partir d'un an, chez certains enfants, ça va mieux. Pour d'autres, c'est 2 ans, voire 3 ans. Mais souvent, à 2 ans, ça va déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir se gaver de laitage. Il y en a certains qui vont garder une petite sensibilité, mais c'est une allergie qui passe relativement vite. Il y a d'autres allergies qu'on garde toute sa vie. Et ce n'est pas les mêmes forcément chez tout le monde. Donc, c'est à voir avec l'allergologue. Et en fonction de la sévérité des symptômes, soit on va faire un test de réintroduction à la maison à partir d'un certain âge, soit on va le faire en milieu hospitalier. Par exemple, les allergies aux médicaments, les gens qui sont allergiques à la pénicilline, on ne fait pas un test à la maison en leur disant de prendre un antibiotique.
Oui.
Non, on fait un test à l'hôpital. Mmh. Ou les enfants qui ont fait des symptômes hyper avec des œdèmes de Quinck, des choses comme ça, on fait des tests de réintroduction à l'hôpital.
Ouais, ouais. On ne fait pas le petit chimiste à la maison, là.
On ne fait pas le petit chimiste à la maison. Et puis surtout, on n'essaye pas de réintroduire tous les 3 mois, parce qu'en fait,
maintenant, on réintoxine le système à chaque fois.
On le resensibilise.
Oui, resensibilise.
Et on sait que les allergies passent plus vite quand les évictions ont été bien faites pendant un certain temps.
Est-ce que quand je fais une éviction, par exemple, d'œufs, disons, je dois lire sur les étiquettes, tu vois, dans les petits princes, il y a marqué « peut contenir des traces d'œufs parce que c'est fait dans un atelier où il y a aussi de l'œuf, etc. »
Alors, tout dépend. Si c'est la maman qui allaite qui fait une éviction pour son bébé qui est exclusivement allaité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le lait maternel, c'est déjà des traces infimes de protéines qu'on trouve. On ne trouve pas les protéines entières.
Donc, des traces de traces.
Donc, des traces de traces, en fait, normalement, on s'en fout. C'est-à-dire que si c'est marqué « traces possibles d'œufs », ça veut dire qu'effectivement, ça a été fait dans un lieu, un laboratoire où on utilise de l'œuf, mais qu'on n'a pas utilisé d'œuf dans la recette. Et donc, non. Là, les mamans, moi, je leur dis « on s'en fiche, vous laissez tomber ». Par contre, si l'enfant est diversifié, et qui a marqué trace possible de dans ce qu'on lui donne directement à lui, alors là, non. Là, on fait attention. Surtout s'il a des symptômes sévères.
Plus les symptômes sont sévères, de toute façon, plus il faut être attentif à ces trucs-là.
C'est-à-dire,
si c'est marqué sur les emballages, c'est pour les gens qui ont des symptômes sévères, parce que ceux qui ont 3 ballonnements, finalement...
Ils sont rarement allergiques, vraiment, ceux qui ont 3 ballonnements.
Comment on réintroduit? Bah ça, tu nous l'as dit, on fait une raclette, quoi.
C'est ça. Oui, enfin, s'il est allergique au blé, ça sert à rien de faire une raclette. Hein,
si il est allergique au blé, on mange chez l'italien.
Un sandwich ou une pizza.
Ouais, manger. En plus, en France, c'est facile de manger du blé aussi. Vous pouvez aller vous acheter une bonne baguette et la manger en entier. Boum, badaboum, le lendemain, ça va.
Mais attention, la réintroduction, encore une fois, si on a une allergie avérée qui a été diagnostiquée, on ne la fait pas tout seul.
Ouais, ouais, ouais.
Hein, on voit avec l'allergologue.
Oui, là, comme on est sur un podcast allaitement, qu'on parle du bébé allaité, c'est vrai que quand on le fait à travers la maman, comme c'est des traces infimes, on peut se permettre de faire ça un peu à l'artisanal.
C'est ça.
Mais pas en direct
avec
l'organisme qui réagit. Si mon premier bébé a été allergique aux protéines de lait de vache, est-ce que mon bébé numéro 2 est plus risqué d'être allergique aux protéines de lait de vache? Oui ou non déjà?
Alors oui. Ce qu'on sait, c'est que si les deux parents sont allergiques à quelque chose, on a 40 à 60% des enfants qui risquent d'être allergiques. Ça, c'est ce qu'on appelle le terrain allergique.
Ouais.
Si un seul des parents est allergique et pas l'autre, on a 20 à 40% des enfants qui sont allergiques. Si on a un frère ou une sœur allergique et pas de parents allergiques, on a 30% des enfants qui sont allergiques. Ce qui n'est pas montré dans les études, mais que j'ai quand même remarqué souvent, c'est qu'il y a certains allergènes qu'on retrouve plus en familial. C'est-à-dire que si j'ai un enfant allergique à l'œuf, j'ai 30% de risque d'avoir un autre enfant allergique à autre chose, ou à l'œuf ou à autre chose.
Mm-hmm.
Par contre, si j'ai un enfant allergique aux protéines de lait de vache, eh ben, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir un enfant réel, le deuxième aussi.
D'accord.
Mais c'est pas montré par les études. Mais franchement, dans les familles que je vois, c'est tellement fréquent que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est variable en fonction des allergènes. Et puis, si on n'a aucun parent allergique, pas de frère et sœur allergique, etc., on a 10 à 20% des enfants qui ont un risque d'allergie quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'allergie est un phénomène de notre siècle. On a beaucoup plus d'allergies maintenant qu'il y a 40 ans, par exemple. Alors, vous me direz, il y a 40 ans, on s'en occupait pas. C'est pas faux. Moi, pour avoir été fortement allergique étant bébé, je vomissais tous mes biberons, je vomissais, à l'époque, on nous donnait des briques de lait à la récré. Je vomissais tous les jours, mais on me forçait tous les jours à boire ma brique de lait. Et quand j'étais bébé, j'ai été nourrie au jus de carotte parce que je vomissais tous les biberons. On savait pas faire. en fait. Donc,
oui, c'est aussi une préoccupation plus actuelle maintenant qu'on fait attention à nos bébés, aux douleurs éventuelles qu'ils ont.
C'est ça. Disons que je pense qu'il y avait déjà des enfants allergiques il y a 40-50 ans.
Oui, c'est sûr.
C'est même sûr. Mais il semble qu'on est né de plus en plus quand même.
Est-ce que on peut quand même se poser la question des microbiotes très perturbés qu'on a et de leur impact là-dedans?
Est-ce qu'on avait des microbiotes moins perturbés il y a 50 ans? Je ne suis pas sûre. Hein.
Je sais pas.
On mangeait déjà très, très industriel quand même. Je ne suis pas sûre que ça ait été mieux il y a 50 ans.
Je le mets ici comme ça, c'est gravé. J'essaie de trouver un spécialiste du microbiote pour répondre à des questions plus spécifiques parce qu'après, ça sort de ton champ de compétences
tout à
toi. Et je pense que ce serait un bon complément à cet épisode pour essayer de comprendre d'un peu plus près comment ça fonctionne à l'intérieur de nos bidons. Donc, en tout cas, si du coup mon bébé 2, puisque mon bébé 1 a eu une allergie aux protéines de lait de vache ou une autre allergie, est-ce que si mon bébé 2 est plus risqué, donc oui, c'est vrai, il est plus risqué d'en développer une, est-ce que je peux anticiper quelque chose ou est-ce que non, au contraire, il ne faut pas
anticiper ?
Surtout
pas.
D'accord.
On ne fait jamais d'éviction préventive, ni pendant la grossesse, ni pendant l'allaitement, ni dans l'alimentation directe qu'on donne à un enfant, parce que ça augmente les risques d'allergie par la suite.
Le fait de ne pas le mettre en contact va venir augmenter les risques d'allergie.
Tout à fait.
Ce qui est corrélé avec le fait qu'au moment de la diversification, les dernières recommandations, c'est allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, puis en complément d'une diversification jusqu'à 2 ans. Mais pour les bébés au potentiel allergique, démarrer la diversification un peu plus tôt.
On peut la démarrer un peu plus tôt, effectivement. Ça, c'est des questions qui sont très controversées.
Ouais.
Parce que les gens qui s'occupent d'allergie disent qu'il faut la commencer plus tôt pour le risque d'allergie. Mmh. Sauf que quand on s'occupe de l'ensemble de la situation, si le système digestif de l'enfant n'est pas prêt à manger plus tôt, on ne lui arrange pas les choses en lui donnant une diversification trop tôt.
Mmh.
Et c'est pour ça d'ailleurs que l'OMS continue à garder une recommandation de 6 mois d'allaitement exclusif avant de diversifier. Donc c'est très franco-français de dire aux parents de commencer plus tôt. Et il n'y a pas de consensus au niveau international sur cette question-là, et les recommandations des diverses instances de divers continents ne disent pas la même chose.
Non.
Donc,
ouais, j'ai l'impression qu'en fait, de mois en mois,
ça change tout le temps.
Ouais, ça change vraiment d'un mois à l'autre.
Donc, moi, je suggère aux parents d'attendre que l'enfant ait envie de manger. Parce que s'il a envie de manger, c'est qu'il est prêt à manger, a priori.
Ouais.
Et il y a des enfants qui ont envie de manger à 5 mois et demi, il y a des enfants qui ont envie de manger à 7 mois, et c'est pas dramatique en soi. Par contre, ce qui est important, c'est que quand on introduit des aliments, plus l'enfant est allaité, plus on fait baisser le risque de réaction allergique. Donc, il faut pas arrêter l'allaitement au moment de la diversification, en fait.
Ah oui.
Si on peut éviter, c'est mieux.
Ok, très bien. Donc, on n'anticipe rien, on laisse venir, et au contraire, il faut pas le faire parce que ça peut augmenter le risque.
Alors, on n'anticipe rien dans les actions, mais par contre, on observe son bébé.
Oui, oui, bien sûr.
Parce que quand on en a déjà eu un allergique, en général, on se rend compte assez vite qu'il y a un problème.
On reconnaît les signes. Ensuite, il y a autre chose qui tourne actuellement, c'est que quand on donne des compléments aux bébés qui vont être allaités exclusivement, quand on leur donne des compléments en maternité, il semblerait qu'ils aient un plus fort risque de développer des allergies aux protéines de lait de vache, puisque les compléments, encore une fois, sont à base de protéines de lait de vache. Déjà, est-ce que c'est vrai?
Alors oui, c'est vrai. On a des études qui ont montré que si on donne un ou deux compléments à un enfant qui, par ailleurs, est exclusivement allaité, il a beaucoup plus de risques de développer une allergie aux protéines de lait de vache.
Quand tu dis beaucoup, il y a un chiffre?
Je sais plus par cœur, mais je sais que c'est vraiment beaucoup plus.
D'accord, ok.
Et ce qui est paradoxal, il a plus de risques de développer une allergie aux protéines de lait de vache qu'un enfant qui n'est pas allaité.
Oui, c'est ça qui est fou.
C'est ça qui est fou. Donc, si à la maternité, on a besoin d'utiliser un complément, parce que ça peut arriver, on ne va pas être des ayatollahs du 100% allaitement quand on a un enfant qui a perdu plus de 10% de son poids et une maman qui n'arrive pas à tirer son lait.
Oui, il y a un moment, faut qu'il mange.
Il faut qu'il mange, et c'est la priorité, c'est qu'il mange. Mais dans ce cas-là, il faudrait utiliser un hydrolysat.
Oui, qui sont les surprescriptions médicales, c'est ça?
Mais à la maternité, ils les ont, les hydrolysats. Et il y a maintenant beaucoup de maternités qui font ça. Hein, que quand il y a besoin de compléments chez des bébés allaités, ils donnent un hydrolysat. Comme ça, on fait baisser le risque.
D'accord.
Et attention, il y a des gens qui ont extrapolé en disant « Ah bah oui, bah dans ce cas-là, s'il a eu un complément à la maternité, il faut qu'il en ait un tous les jours pour éviter l'allergie pendant tout l'allaitement. » Alors ça, c'est très, très controversé. On n'a aucune étude qui montre ça. Et en plus, on va modifier le microbiote du bébé à long terme en lui introduisant de la préparation pour nourrisson tous les jours. Et c'est absolument pas recommandé.
D'accord.
Donc, même alors, si un enfant a eu qu'un ou deux compléments en maternité, bah oui, il a plus de risques de développer une allergie aux protéines de lait de vache. Maman continue à manger des protéines de lait de vache si elle a l'habitude d'en manger, mais on va pas lui donner un biberon tous les jours juste parce que on penserait que ça allait prévenir un risque d'allergie ultérieure. C'est pas prouvé et on n'a rien de fiable qui montre qu'il faille faire ça.
D'accord. Oui, et puis en plus, c'est éventuellement un danger pour votre lactation, donc...
Oui, et puis c'est surtout que quand on a une quand vous voyez le prix des boîtes de lait, une boîte entamée, elle dure 3 semaines, après il faut la jeter. Ah oui, bah, il y a des parents qui vont du coup être tentés de l'utiliser et du coup mettre par terre un allaitement qui marchait bien par ailleurs. C'est aussi stupide.
Est-ce que tu aurais une espèce de conseil, une conduite à tenir, à donner aux professionnels qui reçoivent des parents qui peut-être où il y aurait un sujet, tu vois, autour d'une éventuelle allergie? Quelle est la conduite à tenir face à un couple maman-bébé comme ça? Toi, en tant que consultante, t'accompagnes ça, tu vois, de dire, OK, pendant 3 semaines, on enlève ça, puis pendant 3 semaines, on fait ça. Ou à quel moment tu réfères justement vers l'allergologue immédiatement?
Alors, moi, en tant que consultante en lactation, mon rôle, c'est pas de gérer l'allergie. Et chaque professionnel a son rôle. Moi, si je retrouve des signes qui peuvent faire penser à ça, je vais faire un courrier pour le médecin de l'enfant en lui expliquant ce que j'ai vu, moi, ce que j'ai éliminé du côté allaitement, parce qu'un enfant qui a des gaz, encore une fois, en général, c'est qu'il avale de l'air en tétant.
On ne va pas tout de suite enlever le lait. Ouais.
Voilà. Donc, je vais faire un courrier éventuellement au médecin s'il y a besoin. Et après, c'est au médecin de gérer ça. C'est pas à moi. Je n'ai pas les compétences pour ça. Et le médecin, en général, va référer à l'allergologue. Par contre, encore une fois, je pense qu'il y a plein de bébés chez qui on a parlé d'allergie quand, en fait, il n'y avait pas d'allergie. Et on a eu beaucoup de bébés à une époque qui étaient avec des évictions en veux-tu, en voilà, et surtout aux protéines de lait de vache, alors qu'en fait, bah, il n'y avait pas besoin. Donc, il ne faut pas se précipiter non plus sur cette histoire d'allergie et commencer par aller au plus simple. Le plus simple, c'est est-ce que votre bébé y mange assez? Parce qu'il y a des bébés qui pleurent, mais ce n'est pas de l'allergie, c'est qu'ils ont faim. Bah oui, ça te fait rire.
Commençons par la base.
Donc mais oui, vrai. Mais y a, des fois, on cherche beaucoup trop compliqué. Donc, est-ce qu'il mange assez? Est-ce que sa prise de poids est bonne? Est-ce qu'il tète correctement? Est-ce qu'il avale de l'air quand il tète?
Oui, parce que ça, c'est tellement fréquent.
C'est tellement fréquent, donc il faut... Clairement, on commence par ça. Est-ce que ce bébé, il est dans les bras de ses parents quand il en a besoin aussi? Parce qu'il y a des parents qui considèrent que leur bébé pleure beaucoup, mais parce qu'ils veulent le poser. Et un nouveau-né, bah, il passe beaucoup de temps dans les bras de ses parents, et ça, c'est normal. Et quand il est dans les bras de ses parents, est-ce qu'il est calme ou est-ce qu'il est agité? S'il est calme dans les bras, c'est pas qu'il souffre. Ouais.
Globalement, un bébé qui se calme dans les bras ou en portage, c'est un bébé qui va pas trop mal. Quoi.
Voilà. Donc, je pense qu'il faut d'abord éliminer les pistes évidentes et simples avant de chercher du côté de l'allergie. Par contre, si on a un bébé qui gonfle, c'est les urgences et vite. Si on a un bébé qui a du sang dans les selles, on n'attend pas le prochain rendez-vous pédiatre, on avance le rendez-vous pédiatre au plus vite. Et on dit à la secrétaire au téléphone qu'il y a du sang dans les selles.
Oui, parce que ça, en général, ça fait tilter la secrétaire.
Voilà. Donc, il y a des signes quand même où on n'attend pas. Le sang dans les selles, le bébé qui gonfle, ce genre de choses, on n'attend pas. Par contre, un bébé qui a des gaz, mal au ventre, du reflux... ça peut être un petit truc. Hein, donc,
oui, et puis surtout qu'on a dit que le reflux était... Enfin, il y avait beaucoup de reflux dans les cas d'allergie. 50%, tu disais, des...
Mais on a 50% qui sont de la mécanique.
Mais voilà, parce que typiquement, un bébé qui a beaucoup de gaz, qui boit beaucoup d'air, ça appuie sur son estomac toute la journée, ça remonte et ça va de pair d'avoir des gaz et du reflux en même temps, typiquement. Et là, on a d'autres sujets que les allergies, en effet, à aller creuser en premier. OK, donc pour résumer, ce ne serait pas le diagnostic de première intention. Mais si on a beaucoup de signes dans ceux que tu as évoqués qui viennent se recouper, on peut s'alerter un peu plus tôt en fonction des signes qu'on a. Mais on n'oublie pas de rechercher la base, à savoir est-ce que ce bébé mange assez? Est-ce que la conduite de l'allaitement est bonne? Est-ce que ce bébé il est assez de réassurance, etc. Et une fois qu'on a éliminé tout ça, qu'on sait si ce bébé il tète bien, que l'allaitement il est bien en place, etc. et qu'il reste des choses, c'est là en fait qu'on vient s'intéresser aux allergies.
Oui,
c'est ça.
Sauf si on a un signe évident.
Voilà, sauf s'il y a des signes évidents et qui se recoupent. Ouais. Ou alors qui gonfle, en effet là.
Oui.
D'ailleurs, on va pas revoir la conduite de l'allaitement, on va aux urgences.
Voilà.
OK, très bien. Est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose ou on est bien comme ça?
Je pense qu'on a fait le tour sur le plus important, en tout cas.
OK, et bah, très bien. C'est toujours aussi clair, concis, parfait. Merci, merci Véronique. Et puis, je te dis à une prochaine dans Milk Checker pour un sujet tout aussi costaud.
À bientôt.
Un
Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te le redis encore une fois, mais c'est si important. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite surtout pas à le partager, à mettre une note ou des étoiles sur les plateformes d'écoute pour m'aider à le faire connaître. Déjà, ça me booste et ça me motive à continuer de créer ces contenus. Et surtout, ça permet à de nouvelles personnes d'être informées correctement sur l'allaitement. Pour échanger ou me faire un retour sur ce que tu as entendu, rendez-vous sur Instagram @milkshakerpodcast et je te répondrai avec plaisir. Pour rechercher un épisode, cette fois, une thématique, c'est sur le site internet milkshaker.fr que ça se passe. Tu y trouveras tous les épisodes et un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet recherché. Pour me consulter, comme ostéopathe, ça se passe à Suresnes dans le 92. La prise de rendez-vous, elle se fait sur Doctolib en tapant Charlotte Bergerot Palisco. On se quitte, comme au premier jour, avec Emma et son titre Blinded, en collaboration avec Nemen. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, milkshakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.